Chapitre 5. Depuis environ 15 jours, les mouches rares auparavant abondaient et devenaient insupportables. Et tous les Maoris de se réjouir. Les bonites et les thons allaient monter du large. Les mouches annonçaient la saison de la grande pêche, la seule raison du travail à Tahiti. Chacun vérifiait la solidité de ses lignes, des hameçons. Femmes, enfants, tout le monde s'embrouillait à traîner des filets, ou plutôt de longues barrières, en feuilles de cocotier, le long du rivage, sur les coraux qui garnissent le fond de la mer entre la terre et les récifs. On parvient à prendre ainsi certains petits poissons dont les thons sont friands. Quand les préparatifs furent achevés, ce qui ne demande pas moins de 3 semaines, on lança à la mer 2 grandes pirogues accouplées et garnies à l'avant d'une très grande perche susceptible d'être relevée vivement au moyen de 2 cordes fixées à l'arrière. La perche est pourvue d'un hameçon et d'un appât. Quand le poisson a mordu, il est de cette manière aussitôt tiré de l'eau et emprisonné dans l'embarcation. Nous franchîmes la ligne des récifs et nous aventurâmes loin au large. Je vois encore une tortue, la tête hors de l'eau, qui nous regarde passer. Tous les pêcheurs étaient gais et ramaient vivement. Nous arrivons à un endroit où la mer est très profonde et qu'on nomme le trou au thon. C'est là, en effet, à côté des grottes de Mara, dit-on, que ces poissons, la nuit, vont dormir à des profondeurs inaccessibles aux requins. Un nuage d'oiseaux de mer plane au-dessus du trou, surveille les thons. Quand un poisson apparaît à la surface, les oiseaux se laissent tomber à la mer et remontent avec un lambeau de chair au bec. Dans la mer et dans l'air et jusque sur nos pirogues de tous côtés, on médite le carnage et on l'accomplit. Comme je demandais pourquoi on ne filait pas une longue ligne de fond dans le trou au thon, il me fut répondu que c'était impossible. Lieu sacré, là réside le dieu de la mer. Je pressentais une légende et j'obtins sans peine qu'on me la contât. Rue Amatu, espèce de Neptune tahitien, dormait au fond des mers dans cet endroit. Un pêcheur commit l'imprudence d'y aller pêcher, et son hameçon s'étant accroché aux cheveux du dieu, le dieu s'éveilla. Furieux, il monta à la surface pour voir qui avait eu l'audace de troubler ainsi son repos, et quand il vit que le coupable était un homme, il décida aussitôt que toute la race humaine, pour expier cette insulte, périrait. Du châtiment, pourtant, par une mystérieuse indulgence, fut accepté précisément le seul coupable. Le dieu lui ordonne d'aller avec toute sa famille sur le Toamarama, qui d'après les uns est une île ou une montagne, et d'après les autres une pirogue, une arche. Quand le pêcheur et sa famille furent rendus à l'endroit indiqué, les eaux de la mer commencèrent à monter. Elles couvrirent peu à peu jusqu'aux montagnes les plus élevées et firent périr tous les vivants, à l'exception de ceux qui s'étaient réfugiés sur ou dans le Taormarama et qui plus tard repeuplèrent les îles. Nous dépassâmes donc le trou au thon et un homme fut désigné par le patron des pirogues pour enfoncer la perche dans la mer et jeter l'hameçon. On attendit de longues minutes durant, aucun thon ne venait mordre. Ce fut le tour d'un autre rameur et, cette fois, un superbe thon mordit, fit ployer la perche. 4 bras vigoureux soulevèrent l'arbuste en tirant les cordes à l'arrière, et le thon parut à la surface. Mais aussitôt un gros requin sauta sur notre capture. Quelques coups de terribles dents, et nous n'avions plus que la tête de notre poisson. C'était mon tour, le patron me fit signe. Je jetai l'hameçon, et au bout de très peu de temps, nous pêchions, cette fois, un thon énorme. Oh, j'entends mes voisins rire entre eux et chuchoter. Je n'y pris pas garde. Assommé à coups de bâton sur la tête, l'animal, frémissant des spasmes de l'agonie, s'agitait dans la pirogue et son corps, transformé en miroir brillant de facettes, jetait les éclairs de mille feux. Une seconde fois, je fus aussi heureux. Oh, décidément, le français portait chance. Mes compagnons me félicitaient joyeusement, protestant que j'étais un homme de bien, et moi, tout glorieux, je ne disais pas non. Mais dans ce concert de louanges, je distinguais, comme lors de mon premier exploit, des chuchotements et des rires inexplicables. La pêche continua jusqu'au soir. Quand la provision de petits poissons amorcés fut épuisée, le soleil incendiait de rouge l'horizon et 10 magnifiques thons surchargeaient la pirogue. On se prépara au retour. Pendant qu'on mettait tout en ordre, je demandai à un jeune garçon le sens des paroles échangées tout bas et des rires qui avaient accueilli mes deux captures. Il refusa de me répondre, mais j'insistais, sachant combien peu le Maori possède de force de résistance, comme il cède vite quand on le presse énergiquement. Mon interlocuteur me confia alors que si le poisson est pris par l'hameçon à la mâchoire inférieure, et c'était le cas, cela signifie infidélité de la vainée pendant l'absence du tan. Je souris incrédule et nous revînmes. La nuit au tropique tombe vite. Il s'agissait de la devancer. 22 bras vigoureux enfonçaient la pagaie dans la mer, et les rameurs, pour s'exciter, criaient en cadence. Un sillage phosphorescent s'ouvrait derrière nos pirogues. J'eus la sensation d'une course folle. Les redoutables maîtres de l'océan nous poursuivaient. Autour de nous bondissaient comme des troupeaux de poissons curieux. 2 heures après, nous approchions de l'entrée des récifs. La mer y déferle furieusement et le passage est dangereux à cause de la barre. Ce n'est point chose aisée que de bien présenter le devant de la pirogue à la lame, mais les indigènes sont adroits et avec un vif intérêt. Non sans un peu de crainte aussi, je suivis la manœuvre qui s'exécuta parfaitement. Devant nous, la terre s'éclairait de feux mouvants. Flammes de torches énormes que fournissent les branches sèches des cocotiers. Et c'était un spectacle admirable. Sur le sable, au bord des flots illuminés, les familles des pêcheurs nous attendaient. Quelques figures se tenaient assises, immobiles, et d'autres couraient le long du rivage avec les enfants qui sautaient en jetant des cris aigus. D'un puissant élan, la pirogue s'éleva sur le sable. Alors on procéda au partage. Tout notre butin fut déposé par terre et le patron le divisa en autant de parts égales qu'il y avait eu de personnes. Hommes, femmes et enfants, pour concourir et à la pêche au thon et à la pêche aux petits poissons. Cela fit 37 parts. Sans perdre de temps, ma veinée prit la hache, fendit le bois, alluma le feu, tandis que je faisais un peu de toilette et que je me couvrais à cause de la fraîcheur de la nuit. De nos 2 parts, l'une fut cuite. Et Thera garda la sienne crue. Puis elle m'interrogea longuement sur les divers incidents de la pêche, et je satisfis avec complaisance sa curiosité. Elle s'égayait de tout, contente et naïve, et je l'étudiais sans rien lui laisser voir de mes secrètes préoccupations. Au fond de moi, une inquiétude sans plausible cause s'était éveillée et ne voulait pas dormir. Je brûlais de faire à Terrain une question, une certaine question, et j'avais beau me dire « Ah, quoi bon ?» Je me répondais à moi-même « Oh, qui sait ?» Vint l'heure du coucher, et quand nous fûmes tous deux étendus côte à côte, je dis tout à coup « Tu as été bien sage ?»« Oui. » « Et ton amant d'aujourd'hui, était-il bon à ton goût ?»« Mais je n'ai pas eu d'amant. »« Tu mens, le poisson a parlé. » Terra se leva et me considéra fixement. Son visage avait un caractère inouï de mysticisme et de majesté qui m'était inconnu, et dont je n'aurais pas cru susceptible ses traits d'enfant. Une atmosphère nouvelle venait de se créer dans notre petite case, et je sentais que quelqu'un d'auguste s'élevait entre nous. Oui, malgré moi, je subissais l'ascendant de la foi. J'attendais l'avertissement d'en haut, et tout en faisant un rapide et pénible retour sur les petitesses de notre scepticisme, comparé aux certitudes ardentes d'une croyance, et fût-ce d'une superstition quelconque, je ne doutais pas que l'avertissement ne dût venir. Terra, doucement, alla fermer la porte, et revenu au milieu de la chambre, fit à haute voix cette prière. « Sauvez-moi, sauvez-moi, il est soir des dieux. Surveillez près de moi, ô mon Dieu. » Près de moi, ô mon Seigneur, gardez-moi des enchantements de mauvaise conduite, de souhaiter du mal ou de maudire, des secrètes menées et des querelles pour les limites des terres, que la paix règne bien autour de nous. Ô mon Dieu, gardez-moi contre le guerrier furieux, de celui qui erre furieux, se plaît à effrayer et dont les cheveux sont toujours hérissés, que moi et mon esprit vivent. Ô mon Dieu !» Ce soir-là, je priais presque. Sa prière finie, elle s'approcha de moi et me dit avec des larmes dans les yeux « Il faut me battre, beaucoup me frapper !» Et devant ce visage résigné, ce corps merveilleux, j'eus la vision d'une parfaite idole. Que mes mains soient à jamais maudites, si elles osaient se lever sur un chef-d'œuvre de la nature. Ainsi nue, elle me semblait recouverte du vêtement de pureté jaune-orangé, du manteau ou du pixu. Belle fleur dorée, dont le Noa-Noa tahitien embaumait, et qu'en moi l'homme adorait comme l'artiste. Elle répéta, « Il faut me battre beaucoup, me frapper, sinon tu seras courroucé longtemps et tu seras malade. » Je l'embrassai, et mes yeux, qui maintenant admiraient sans défiance, disaient les paroles de Bouddha. « Oui, c'est par la douceur qu'il faut vaincre la violence, par le bien le mal, par la vérité le mensonge. » Oh, je dus lui paraître bien étrange. Plus étrange encore me parut Terra toute cette nuit divine. Le jour se leva radieux. Dès la première heure, belle maman nous apporta quelques cocos frais. Du regard, elle interrogeait Terra. Elle savait. Avec un jeu très fin de physionomie, elle me dit « Tu as pêché hier, tout s'est bien passé ?» Je lui répondis « Oh, j'espère bientôt recommencer !» Chapitre 6, épilogue. Il me fallut revenir en France. Des devoirs impérieux de famille me rappelaient. Adieu, terre hospitalière, terre délicieuse, patrie de liberté et de beauté. Je pars avec 2 ans de plus, mais rajeuni de 20 ans. Plus barbare aussi qu'à l'arrivée et pourtant plus instruit. Oui, les sauvages ont enseigné bien des choses aux vieux civilisés, bien des choses, ces ignorants de la science de vivre et de l'art d'être heureux. Quand je quittais le quai, au moment de prendre la mer, je regardais pour la dernière fois Thera. Elle avait pleuré durant plusieurs nuits. Lasse maintenant et triste toujours, mais calme, elle s'était assise sur la pierre, les jambes pendantes, effleurant de ses 2 pieds larges et solides l'eau salée. La fleur qu'elle portait auparavant à son oreille était tombée sur ses genoux, fanée. De distance en distance, d'autres comme elle regardaient, fatiguées, muettes, sans pensée, la lourde fumée du navire qui nous emportait tous à bord d'un jour. Et de la passerelle du navire, avec la lorgnette longtemps encore, il nous sembla lire sur leurs lèvres ce vieux discours maori. Vous, légère brise du sud et de l'est, qui vous joignez pour vous jouer et vous caresser douce au-dessus de ma tête, hâtez-vous de courir ensemble à l'autre île. Vous y trouverez celui qui m'a abandonné, assis à l'ombre de son arbre favori. Dites-lui que vous m'avez vu en pleurs. Paul Gauguin, 1898.